sport. Tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pour Ruffec et Nord-Charente, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons ce soir Michael Ruiz, président, pas président, peut-être futur président, mais en tout cas coach de l'AS Saint-Égrayex. Michael, bienvenue dans notre émission.
Ben, merci beaucoup et merci pour l'invitation.
Voilà, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Donc, je sais que Christian brûle d'impatience de vous poser des questions. Donc, on va vous mettre sur le grill et je vous laisse entre les mains expertes de Christian.
Bah, écoute, moi, oui, je suis très, très heureux de recevoir Minka puisque c'est quand même un coach qui a l'une des plus longues longévités en Charente, hein, puisque il est à Saint-Égrayex depuis très longtemps maintenant. Alors, j'ai tellement longtemps que j'ai perdu le compte des saisons. Minka, combien de saisons là, à la 6?
Alors, à la 6, ça fait la 10e et en senior, ça fait la 8e.
Voilà, 8 ans, donc c'est quand même important par rapport à un coach. Avant de parler clairement des résultats, là, je vais commencer par évoquer avec toi ton passé de joueur, Mika. Je sais que t'es très très attaché à la CFC, à la ZAC. Parle-nous un peu de Michael Ruiz version joueur. Qu'est-ce que c'était?
Alors la version joueur, elle va aller assez vite parce que ouais, en effet, j'ai joué à la CFC, enfin la ZAC 92 à l'époque. Tout s'est super bien passé et puis à l'âge de 18 ans, sur le passage du 17 senior, j'ai eu une maladie qui m'a obligé à arrêter le foot du jour au lendemain. C'est à l'époque où c'était la saison 2000-2001. Je venais d'intégrer avec Titi Girard les entraînements de l'équipe première de la CFC à l'époque. Et tout s'est arrêté du jour au lendemain. Voilà. Donc ma carrière de footballeur, voilà, malheureusement, elle est loin et elle s'est arrêtée prématurément.
Bon, en tout cas, ta carrière d'entraîneur est beaucoup plus longiligne, beaucoup plus longue. Et puis c'est intéressant de t'avoir, parce que moi, je voulais refaire un peu avec toi ton historique en tant qu'entraîneur de Saint-Égrayex, parce que finalement, ça a été un peu les montagnes russes. Il y a eu beaucoup d'émotions positives et négatives, notamment les deux premières saisons. Je me rappelle la première saison, donc tu prends l'équipe en promotion de ligue à l'époque. Donc on devait être en 2013-2014, quelque chose comme ça à peu près.
2014-2015.
Forcément, Saint-Égrayex avait des ambitions et puis ça se passe pas forcément comme vous le voulez. Mais sur la deuxième saison, bah, vous rétablissez la situation et vous montez en compagnie de Jarnac. Raconte-moi un peu ces deux premières saisons en tant que coach.
On va dire que c'était pas prévu. C'est-à-dire que j'ai toujours été éducateur à la CFC. J'ai eu des passages à vide pour des raisons professionnelles. Et ça devait être en 2012. J'ai eu l'opportunité de reprendre une équipe. Ça a pas pu se faire à la CFC. J'ai repris les U17 à l'époque à Saint-Égrayex, qui venaient de monter de district à PH. On va prendre les noms de l'époque, équivalent à R2 aujourd'hui. Et donc j'ai accepté cette équipe-là et on est monté du coup dans la foulée en R1. Donc, c'était la première fois que le club atteignait chez les jeunes cette catégorie-là. Et l'année d'après, je suis monté avec les U19. J'ai suivi les joueurs et ensuite il y a eu une opportunité en senior, mais c'était pas du tout prévu. Donc c'était en 2014 où on m'a mis responsable de la catégorie senior. J'ai pris l'équipe première. Ça faisait une bonne transition puisque j'avais une génération de jeunes qui me suivaient et qui, ben, c'était à mon avis le bon moment pour les intégrer en senior. Donc la première année, ça a été une année de découverte. On va être très clair, c'était ma première expérience en senior. J'étais encore jeune à l'époque et donc ça a été vraiment une année où j'ai découvert beaucoup de choses, on va dire. Et l'année s'est passée, on va dire moyennement en termes de résultats, mais on s'est maintenu. Et puis l'année d'après, on a réalisé un parcours parfait puisqu'on est monté. Et voilà. Donc ces deux premières années, ouais, il y a une année d'adaptation, on va dire, et la deuxième où tout s'est déroulé comme dans un rêve.
Ouais. Et puis je parlais des montagnes russes parce que la saison d'après, donc vous êtes en promotion d'honneur, l'équivalent maintenant de la R2, même si c'est pas vraiment vrai, c'est plutôt de la R3 parce que l'appel a disparu. Ouais. Mais en tout cas, donc vous montez et malheureusement, bah ça se passe pas bien à l'étage supérieur. Donc vous terminez, je crois, dans les derniers, peut-être même derniers, et vous retombez du coup en PL.
Ouais, c'est ça. On a eu une année. Alors autant l'année d'avant, il y avait pas un blessé, j'avais pas un souci et tout a roulé. Autant l'année d'après. J'ai jamais vécu une saison comme ça. C'est tout. Enfin voilà. Un exemple moi qui m'a marqué à l'époque, j'avais eu trois joueurs de champ, donc pas des gardiens, trois joueurs de champ qui s'étaient fracturés la main en trois semaines, dont un qui avait eu arrêt de saison. Enfin voilà, il nous est arrivé des choses pas possibles. On avait fini l'année avec les U17 à l'époque tellement on avait d'absents. Mais voilà, ça avait été une descente dure par rapport à tout ce qui s'était passé, mais logique, du coup, il manquait beaucoup trop de monde. Et surtout, c'est que le groupe s'était battu jusqu'au bout. Et voilà, j'avais pas eu grand chose à leur reprocher. C'était trop compliqué.
Bah, malheureusement, cette dernière saison, il y a eu le Covid, tout simplement. Le Covid qui vous a doublement impacté, j'ai envie de dire, puisque la première année, donc, on est en 2019-2020, la saison s'arrête au mois de mars, et malheureusement, bah, vous êtes relégable. Et même s'il y avait peut-être des je crois qu'il y avait une des, par exemple, en R1, je sais qu'il y avait une descente par poule, il y avait du coup un repêché. Bah, malheureusement, bah, vous faites les frais de cet arrêt puisque vous êtes encore dernier avec beaucoup de matchs en retard. Pour un tas de points, ça suffit pas. Et puis, l'an dernier, bah, vous démarrez bien en D1 et puis il y a le Covid qui vous arrête après 4-5 matchs. Donc, bah, ce fichu coronavirus, finalement, il vous a beaucoup embêté, vous, à Saint-Ajax.
Ah, bah, je pense que, ouais. On peut pas faire pire, en fait. L'année de la descente, on descend à mi-saison. Pareil, comme l'année de la descente de PH, on a eu pas mal de soucis internes. Alors, rien à voir avec le foot, mais des joueurs qui ont connu des soucis perso qui ont fait qu'on a eu un début d'année très compliqué. Et puis, le hasard du calendrier fait que, et puis le hasard des intempéries font que tous les matchs contre les mal classés ont été reportés. Et à la mi-saison, on avait joué deux fois le deuxième, deux fois le premier, deux fois le troisième, mais par contre, on n'avait pas joué les mal classés. Et du coup, ben, au moment où tout s'arrête, on nous explique qu'il va falloir descendre. Et, ben, ça a été assez compliqué à avaler. Et l'année d'après, ben, c'est l'inverse. On est en première division, j'arrive à garder mon groupe, et on repart sur 5 victoires en 5 matchs, et là, cette fois, ça s'arrête. Mais cette fois, on ne nous fait pas monter. Alors, c'est logique, au bout de 5 matchs, c'est pas un souci. Mais du coup, c'est vrai que ça a été dur à avaler.
D'ailleurs, comment ça a été dur à avaler? J'imagine que ça a été compliqué aussi, peut-être de garder certains joueurs ou de les remobiliser, parce que bah, ça fait deux saisons qui ont été impactées. En plus, vous, bah, ça vous a impacté parce que du coup, on vous fait descendre entre guillemets, et puis après, on vous empêche de monter, même si bon, la saison aurait été longue, peut-être que vous auriez pas fini dans les deux premiers. Mais j'imagine que c'est compliqué. Peut-être quel discours tu tiens aux joueurs à ce moment-là?
Alors déjà, il a fallu que je me remotive. Parce que sincèrement, ça a été dur à avaler. Voilà, moi j'aime ce que je fais, je m'investis et descendre dans ces conditions-là, et ça a été dur à avaler, on va dire. Parce qu'en fait, tout a été remis en question à cause du virus, en fait. Et donc ça a été dur à avaler. Donc une fois que j'ai réussi à me remotiver, il a fallu contacter les joueurs. Ça s'est fait naturellement, puisqu'en fait, il y avait déjà des on-dit comme quoi si moi j'arrêtais, les joueurs arrêtaient. Et certains joueurs m'avaient déjà fait comprendre que si je restais, ils allaient rester. Donc une bonne partie du groupe déjà attendait juste ma décision. Et ensuite pour le reste, parce que évidemment on avait un groupe de qualité, ils ont été très sollicités à droite et à gauche, et il a fallu mettre en place, enfin avoir un discours de comment on peut appeler ça, de pas partir dans ces conditions, ne pas laisser le club à ce niveau-là, assumer et tout faire pour que le club remonte. Et pour qu'au moins on soit fier de pas avoir quitté le navire au moment où ça aurait été certainement le plus facile de le quitter. Et puis finalement le discours est bien passé, puisque je dois perdre un joueur de mémoire de l'équipe première, et donc ça s'est plutôt bien passé.
Et oui, donc Saint-Ajax avait fait un super début de saison, donc 11 victoires en 11 matchs, et ce week-end il recevait la réserve de Leroy, un match pouvait ne pas se dérouler puisque il a beaucoup plu en périphérie d'Angoulême ce week-end, et donc le match était incertain. Et finalement, il s'est joué, et donc c'est Saint-Ajax qui l'a emporté 3-0 face à la réserve de Leroy. Saint-Ajax qui enchaîne du coup une 12e victoire en 12 matchs. Forcément, ils sont premiers au classement. Et tout de suite, c'est Dédé qui va nous analyser le classement.
Oui, merci Christian. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller voir le match Saint-Michel-Saint-Ajax. J'ai trouvé qu'il y avait une très très belle équipe, notamment au niveau de la jeunesse. Vous avez dominé cette rencontre à partir de la 20e minute où vous marquez le premier but, c'est cela?
Ouais.
Il y a 8 buts, de beaux buts. Je pense que le public était comblé, il faisait froid, donc ils ont pu applaudir les buts. Et surtout les joueurs. Moi, j'ai vu des joueurs qui était à l'écoute, parce que je t'écoutais aussi, hein, j'étais derrière la main courante, et même quand on domine et quand on mène au score, on t'entend souvent.
Oui,
c'est le fait de Michael, c'est le fait peut-être, c'est ton tempérament comme ça, ou tu veux toujours plus?
Alors voilà, on me décrit souvent comme ça. En fait, on va dire que les deux dernières années ont renforcé aussi ce tempérament parce que aujourd'hui, on veut vraiment prendre notre revanche sur tout ce qui vient de se passer. Et c'est vrai que voilà, c'est dans les tripes et je veux non seulement je veux qu'on remonte, mais je veux pas qu'on remonte d'une manière où voilà, on pourrait se dire oh, tiens, ils ont été accrochés, etc. Je veux vraiment qu'on remette, pour reprendre l'expression, les points sur les i. Mais de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Voilà, lors de la deuxième année, c'est ce que j'explique de temps en temps à des joueurs, c'est que la deuxième année où on est monté de PL à PH, j'ai encore souvenir d'une discussion après le match où on avait été faire match nul à Oléron. On était encore premier avec 5 ou 6 points d'avance. Et j'avais engueulé mon groupe parce qu'on avait été faire un match nul à Oléron. Et je me souviens de mon capitaine qui avait dit à l'époque, de toute façon, tu seras jamais satisfait. Et ben, c'est vrai. Je suis très content de mon groupe. Je suis heureux de ce qu'on est en train de faire. Mais il faut qu'on continue. Voilà. Donc, on commence à rentrer dans oui, c'est bien, ouais, hein, ben, on va perdre de la motivation, on va perdre de l'envie, on va perdre de la qualité. Et on va s'embêter. Et donc, ça, je ne veux surtout pas parce que, comme je leur ai dit, la première division, dans ma tête, c'est un passage. Il faut qu'on soit prêt quand on va revenir en ligue, qu'on soit prêt à jouer des rôles intéressants. Donc c'est dans mon tempérament et même si la série continue, je les lâcherai pas. Ça, ils le savent.
Ah, mais ça, je m'en suis aperçu. Moi, ce que j'ai aussi apprécié, c'est le jeu, rapide, le jeu de la jeunesse et qui sont vraiment à ton écoute. J'ai pas entendu un mot sur le terrain. Alors j'ai trouvé quand même que l'équipe de Saint-Michel était très très faible. Je peux le dire parce que j'ai trouvé très très faible et que vous avez joué comme en leader.
En fait, on a avant le match, j'ai cette crainte là, c'est qu'on vient de sortir, on vient d'enchaîner des matchs contre des adversaires de haut de tableau, oui. Et j'avais la crainte que ce groupe prenne ce match là à la légère. Et j'ai été chercher dans les autres départements tous les premiers de chaque poule pour info, et j'ai été regarder contre qui ces premiers de chaque poule étaient tombés. Et ben 50% des leaders sont tombés contre des équipes qui étaient mal classées.
D'ailleurs, et je te coupe juste une seconde. Ouais. Est-ce que, vu que tu as regardé un peu l'ensemble des districts, est-ce qu'il y a un autre district où il y a un leader qui a fait 100% de victoire?
Non, il y en a un, c'est dans le 87, mais c'est particulier, c'est une poule de 10. Et ils ont joué que 7 matchs pour l'instant, ils sont à 7 victoires, 0 défaite. Dans nos nombres à nous, personne ne l'a fait. Et c'est ce que j'ai essayé justement de faire comprendre aux joueurs, et je leur ferai comprendre match après match, ils le savent, que de toute façon, je commence toujours par ça. C'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de tenir dans les mains quelque chose qui est super. Parce que peu importe le niveau dans lequel on joue, enchaîner des victoires comme on est en train de le faire, c'est super. On a énormément d'absents. On a depuis le début de saison état des terrains, tout ce qu'on veut. Bah, malgré tout ça, on gagne. Je leur ai dit que c'était important de le garder ça et de tout faire pour continuer. Et contre Saint-Michel, le message a été reçu et la première mi-temps est pour moi très bonne parce qu'au-delà du 6-0, parce que 6-0 à la mi-temps, on a senti une équipe qui se portait vers l'avant. Où ça déboulait dans tous les sens, où le projet de jeu que l'on a voulu mettre en place était acquis, et il y en a 6, mais il peut y en avoir plus. La deuxième mi-temps est évidemment moins bonne, parce qu'évidemment, c'est pas facile de revenir dans un match quand le match est plié à la mi-temps. Mais la première mi-temps, elle est très, très positive dans l'état d'esprit. Et c'est ce qui m'intéresse.
L'objectif pour toi justement, d'être toujours derrière tes joueurs, c'est aussi de respecter l'adversaire, parce que à 6 buts à la mi-temps, beaucoup d'équipes ne respecteraient plus l'adversaire et peut-être se relâcheraient. Vous, au contraire, vous avez vraiment respecté cette équipe de Saint-Michel jusqu'au bout s'il y avait eu 15 buts à la fin du match, il y aurait eu 15 buts, il y en a eu 8, mais le principal, c'était vraiment de respecter aussi l'adversaire jusqu'à la fin.
C'est important. Et puis bon, de toute façon, voilà, je l'ai dit, je veux pas qu'on fasse les choses à moitié. Si on commence à se relâcher, c'est évident que on va tomber. Et moi, je veux pas qu'on tombe cette année. Ça va être dur. Hein. C'est comme ça.
Oui. Michael, dans ton site de management, est-ce que tu as des relais sur le terrain?
Alors déjà, on prend beaucoup de place. C'est-à-dire que moi, des relais, déjà, j'en ai sur le côté avec moi. J'ai deux dirigeants qui sont très très importants déjà pour moi. C'est même pas des dirigeants, c'est des amis très proches qui prennent déjà aussi de la place. Moi, je sais que je prends beaucoup de place. Et ensuite, on a quand même quelques joueurs dans le vestiaire qui sont capables de prendre le relais. d'haranguer, d'aboyer, on va dire, sur le terrain. Donc ça a été un des soucis de Saint-Yrieix lorsqu'on est descendu. On avait une équipe qui manquait de caractère. Le seul qui criait, c'était le coach, et évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc c'est important d'avoir des joueurs sur le terrain qui sont capables de prendre le relais quand voilà. Et oui, je les ai cette année. J'en ai 4-5 qui sont capables de le faire, et ça change la vie, on va dire. Voilà.
Ouais, puis t'as aussi des leaders techniques sur le terrain. Moi, j'ai deux noms qui viennent spontanément à l'esprit. Bon, forcément, c'est deux noms qui sont un peu made in la CFC. C'est Cédric Bernard, le premier, qui a toute son expérience, qui a joué en DH à Angoulême, qui, moi, à l'époque où la CFC repartait avec Jean-Jacques Edli, moi, me faisait rêver complètement sur le terrain. Je me rappelle notamment d'un septième tour de Coupe de France à Montluçon, où il touche presque la grâce de Zidane, pratiquement. Bon, j'abuse un petit peu, mais il avait été très bon sur ce match. Et puis le deuxième, bah, c'est Melvin Michel, qui a été à la CFC, qui est venu chez vous, qui a marqué beaucoup de buts et qui est parti après du côté de Cognac et en Gironde, et qui revient chez vous. Forcément, d'avoir l'apport de ces joueurs d'expérience en première division, c'est forcément une plus-value hyper intéressante.
Ah ben, c'est sûr, ouais. Après, je suis complètement d'accord sur les deux noms que tu viens de donner. Hein, c'est des noms,
il y en a d'autres,
c'est
hein,
des joueurs importants. Mais voilà, bien sûr, c'est ce que je cherche. C'est que je veux pas un joueur, je veux un groupe. Et en effet, ces deux joueurs, ils sont super importants pour moi dans ce qu'on veut mettre en place, dans le jeu que l'on veut mettre en place. Parce qu'il y a un projet de jeu qui est précis. On travaille en tout cas d'une façon bien précise. Ces garçons sont super importants, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le groupe. La première NIF, c'est une division hyper compliquée. C'est pas parce qu'on est 11 sur 11 qu'on survole. Dans toutes les équipes, je suis capable de citer entre 2 et 3 joueurs qui sont de très bons joueurs. Mais est-ce qu'ils sont entourés? Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Donc chez moi, je cherche à les entourer, et c'est un groupe qui est en train de dominer. Mais oui, ces garçons sont importants, c'est sûr.
Tu fais référence à la première division. Là, j'ai le classement sous les yeux et je compte, on va dire 6 équipes qui ont été en promotion de ligue. On va dire, ces 10 dernières années. Il y a vous, il y a Confolan qui a même été en DHR et qui est un peu comme vous, qui se retrouve en première division, mais qui aurait quand même sa place au niveau régional. Il y a Moutier, avec Frédéric Clément comme entraîneur, qui, bah, pareil, je pense que c'est un ambitieux de la poule. Basso, Linard aussi ont été une année en PL. Et puis il y avait aussi la réserve de Leroy qui a été en PL il y a plus longtemps, mais ils ont quand même beaucoup de joueurs d'expérience dans leur groupe. Donc c'est quand même une première division. C'est pas une première division rabais, en tout cas.
Non, c'est clair. Il y a de belles équipes.
Et j'oublie pas Verdi, qui possède des joueurs comme Jérémy Manem, qui, à la CFC, était très fort quand il était jeune. Et Brie, qui semble faire un super parcours.
Ouais, non, mais enfin, c'est des équipes, de toute façon, celles que tu viens de citer, c'est des équipes qui ont des cartes à jouer, c'est une certitude. Et puis moi, c'est ce que j'essaie aussi d'expliquer aux miens, c'est que il faut pas banaliser ce qu'on est en train de faire. Quand une équipe descend, c'est très dur de remonter, parce que t'es en train de citer des équipes qui ont joué en ligue et qui aujourd'hui sont en première div. Alors je prends l'exemple de Moutier, par exemple, ça fait quelques années et ils souhaitent remonter. Donc c'est très dur de remonter. Et puis on cite les équipes de première div, mais il y en a qui ont fait la chute deuxième, voire troisième. Il y a d'autres clubs également. Donc non, c'est vraiment pas une poule facile. Quand on est descendu, on nous avait déjà dit qu'on nous avait promis l'enfer en disant vous êtes pas fait pour la première div, vous allez exploser.
Bon, non,
pour l'instant on est là.
Pour être plus complet, je vous ai vu jouer. Franchement, vous avez le niveau supérieur. Je le dis franchement, vous avez dominé de la tête et les épaules. En plus, ça joue bien devant. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà, ça marque, il n'y a pas beaucoup de déchets, et derrière, c'est solide. Et puis, il y a un très, très bon milieu de terrain. Moi, je pense... je crois que Hugo, il est ailier, je pense.
Oui, Hugo est ailier. Le milieu de terrain, aujourd'hui, bah, c'est justement... Alors, depuis Saint-Michel, hein, parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits, mais c'est Melvin qui est en TIS, Cédric Bernard, pour reprendre eux, et Anto Giro, qui est aussi un produit à CFC. Donc, c'est les 3 milieux de terrain, ça joue au foot.
Ouais. Ouais, moi pour compléter, si tu veux, comme je suis enfin sur le match que j'ai vu, vous êtes complet partout. Puis ça va vite, ça va. La défense était débordée. Vous courez, vous y allez. Enfin, ça c'est du mouvement, c'est pas du ralenti. C'est 90 minutes là à fond. Hein. Moi, je l'ai vu, donc j'ai pris plaisir à regarder ce match, même si voilà, en face, ben ils étaient débordés, puis il faisait froid, mais vous avez apporté la chaleur hein, dans les tribunes.
Il y a eu un but de trop, en fait.
C'est le dernier.
Voilà. Ah, celui-là, ouais, il m'a énervé.
Bon, hein. Non, mais Enfin, il joue bien le coup quand même, là. Bon.
Oui, mais parce qu'on s'arrête aussi. Voilà. Mais bon, non, mais je plaisante parce que voilà, le mardi, les joueurs ont fait une séance physique à cause de ce but-là, donc ça les a fait rire. Mais c'est bien. Voilà, j'ai apprécié ce match-là, comme je l'ai dit. Oh, voilà.
Ça va vite.
Ils n'ont pas sous-estimé l'adversaire. Ils ont envoyé. Alors les 45 premières minutes, parce qu'après ça a ralenti, mais les 45 premières minutes, on a respecté l'adversaire. Le projet de jeu a été respecté et ça a déboulé dans tous les sens. Et
Michael, dans quel schéma tactique tu fais évoluer ton équipe?
On va dire qu'on a deux façons de voir les choses, quand on a le ballon et quand on l'a pas. Voilà. Donc, quand on l'a, on est en 4-3-3 et quand on l'a pas, on s'adapte. Voilà.
Vous étiez comment à Saint-Michel?
En fait, on a eu énormément le ballon. On n'a pas eu besoin de s'adapter. On a des principes de jeu. On a des mouvements qui sont un peu particuliers. Le dispositif de départ était un 4-3-3.
Et pour tenir 90 minutes, comme vous l'avez fait, c'est Saint-Michel. Ça aurait pu être un autre match, hein. c'est celui que j'ai regardé. Donc, je peux en parler. Tenir 90 minutes au rythme, vous l'avez fait. c'est quand même de l'application dans les entraînements. Il y a combien d'entraînements et il y a combien de joueurs qui peuvent jouer à ces places?
Alors il y a deux entraînements par semaine, c'est le mardi et le jeudi pour l'instant. Ensuite, on a en début de saison, on avait un effectif global important pour la A, la B et la C, parce qu'on sortait 2 ans de Covid et que c'était sûr et certain que les blessures allaient s'enchaîner, les problèmes musculaires allaient s'enchaîner, etc. Donc aujourd'hui, si tout le monde est là, j'ai à peu près une vingtaine de joueurs capables de jouer en équipe première. Les problèmes divers de blessures fait que j'ai plus aujourd'hui entre 12 et 13 joueurs. Il me manque beaucoup de monde depuis le début de saison. Il y en a qui ont toujours pas posé le pied sur le terrain d'ailleurs. Mais voilà. Par contre, ils sont sérieux aux entraînements. Ceux qui veulent jouer en équipe première, ils le savent que de toute façon, s'ils viennent pas, ils joueront jamais. Et donc, j'ai des pourcentages de présence aux entraînements qui sont très, très satisfaisants. Donc, là-dessus, ils jouent le jeu. Mais ils le savent de toute façon.
C'est important d'avoir un effectif comme celui-ci.
Oui, bien sûr.
L'équipe première est en première division et puis la B est en deuxième juste en dessous, donc il n'y a pas non plus un gap énorme, finalement les deux groupes peuvent pratiquement s'entraîner tous ensemble.
Le mardi on s'entraîne tous ensemble parce qu'on a des présences un peu moins rigoureuses, on va dire, dans la réserve. Mais le mardi on s'entraîne ensemble et le jeudi on sépare les groupes.
J'en profite pour évoquer l'équipe réserve qui est donc en deuxième division, qui est sixième de son championnat. Donc on va dire première moitié de tableau, parce que c'est une poule de 13, qui est entraînée par Nabil Baranchi et secondé donc par Yannick Chaumet, qui était avant l'entraîneur de la réserve. Est-ce que d'abord, la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que Nabil joue toujours ou il est vraiment passé de l'autre côté cette fois?
Il joue. Il est vieux, le problème, c'est ça le problème. Donc il a été pas mal blessé. Mais non, il joue. Je préfère quand il joue. Il y a même des paniers en équipe première, parce que la première journée de championnat, j'ai eu un souci de dernière seconde et il est venu en 14e et je lui avais dit tu rentres que s'il y a besoin, finalement il est rentré. Et là, ce week-end contre Brice, c'est pareil, j'ai eu un souci d'effectif au dernier moment, je lui dis viens en 14e, on sait jamais, et puis finalement j'ai mon numéro 5 qui s'est blessé à l'échauffement et il a joué 90 minutes. Donc il est là, il joue et voilà. Quand l'AB joue pas, il joue avec moi, et quand l'AB joue, il joue avec l'AB.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 97. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission sportive, le lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité, Michael Ruiz.
Quelle est l'équipe où il a fallu vraiment s'employer pour s'imposer?
Il y en a plusieurs. Il y en a une qui me vient particulièrement en tête. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le tournant. C'est Confolant chez eux. Après Brie, c'est très costaud. Moutier, c'est costaud. Enfin voilà, il y a des belles équipes. Mais pour moi, si je devais retenir un match cette saison, c'est Confolant. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, la première journée, on gagne chez nous contre Linard. Ensuite, on se fait sortir en Coupe de France d'une manière horrible. Mais peu importe, je reviendrai pas dessus. Et le week-end qui suit, on est exempt, parce que c'est une pousse de 13, on est exempt. Et troisième journée de championnat, on va à Confolon, qui vient d'en mettre également 8 à Saint-Michel, qui vient d'en mettre 5 de mémoire au Portugais d'Angoulême. Et qui, pour moi, chez eux, voilà, je me dis, ce match, il va être compliqué. Et finalement, au bout d'un quart d'heure de jeu, on est mené 2-0, sur des buts d'une équipe dans une dynamique hyper positive, voilà, des buts, voilà, d'une équipe qui est, voilà, de haut de tableau, on va dire. Et il y avait deux solutions, c'est soit on sombrait, et la saison aurait été compliquée, soit on réagissait. Et là, j'ai vu une équipe réagir. À partir de la 20e minute, Confolon n'a plus touché le ballon, et on a fait un match extraordinaire, et on revient, et on gagne 3-2. Et j'ai trouvé que c'était ce match-là, notre match référence, et au-delà de ça, puisqu'on parle de la qualité de l'adversaire, j'ai trouvé Confolon vraiment très costaud.
Oui, c'est souvent d'ailleurs ce genre de match. Je me rappelle de l'année de la montée de la CFC en National 2. Ils perdaient notamment 2-0 contre la réserve des Chamois-Niortais à la mi-temps et puis ils gagnent 3-2. C'est vraiment ce genre de match finalement où on est dans la difficulté et on se relève tous ensemble. Et on parle souvent des petites victoires 1-0, comme vous avez pu faire notamment contre Aigre, où on dit le plus important c'est de prendre les 3 points. Mais il y a aussi ces victoires-là où justement on a été dans la difficulté et on a réussi à inverser le cours de match. Et c'est forcément des victoires qui sont formatrices pour la suite de la saison. Dès le début de saison, finalement, ça envoie vraiment un signal positif.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En plus, bon, il fallait sortir de cette, nous sortir de la tête de la Coupe de France. Et alors, comme j'avais dit aux joueurs, c'était un match. Alors, à la base, c'est la troisième journée. Nous, c'était notre deuxième match, du coup. Mais je leur avais dit que peu importe le résultat, rien ne sera fini. Si on gagne, ça ne fera pas de nous les champions. Et si on perd, ça ne veut pas dire qu'on ne le sera pas. Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment la réaction. Voilà, au bout de 15 minutes, je me gratte la tête en disant bon, on va en prendre combien. Et puis finalement, voilà, ils ont renversé. Il y a eu du caractère et aller la chercher comme ça, en plus de la façon dont on va la chercher à la dernière seconde. J'ai Zidane, hein, pour reprendre ton. Ouais. J'ai Zidane qui dribble ton joueur au milieu de terrain et qui sert justement Hugo dans la profondeur. Ouais. Et ce but à la dernière seconde, il nous fait du bien et ça a lancé notre saison.
Si j'ai bien compris, Michael, c'est l'objectif de cette année, vu le réservoir que vous avez au niveau des jeunes et des joueurs, c'est la montée.
Ah bah de toute façon, il y a pas. Des fois on peut. Non, il y a pas. Oui, je sais bien. Non, on n'est pas resté pour se dire il faut qu'on stabilise le club. Avec les joueurs, on s'est engagé à rester au club malgré la descente. Mais c'est pour remonter en fait. Donc il y aura pas d'autres objectifs. C'est voilà, on veut monter point barre.
Oui, avec le réservoir qu'il y a effectivement, de monter. Et puis moi je pense que vous avez largement votre place. Enfin j'ai vu le. Bah, alors je vais pas prendre le match de Saint-Michel aussi comme référence, hein, parce que moi j'ai vu qu'un match. Ah. Mais sur l'ensemble évidemment des résultats, je les ai consultés avant l'émission. C'est vrai que vous êtes invaincu, vous marquez beaucoup de buts, vous en encaissez très très peu, et vous êtes complet dans tous les domaines.
Ouais. Donc c'est pour ça qu'on voilà, et c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai déjà évoqué, c'est que je veux pas que les joueurs pensent qu'on fait une simple saison de première div. On se prépare pour notre remontée, voilà, et pour que justement si on doit remonter et qu'on doit revenir en R3, qu'on ne connaisse pas les déboires qu'on a eus, qu'on soit prêt en fait à enchaîner. Donc on prépare malgré le fait qu'on soit en 11 victoires, je vous garantis que c'est très sérieux. On a des projets vidéo, des projets stats, on travaille justement pour que voilà, on puisse progresser et faire en sorte que le club, une fois qu'on y sera, il reste voire progresse.
Ouais, avant de parler justement des stats, moi je trouve que c'est hyper intéressant ce que vous avez mis en place. J'avais dégusté votre statut sur Facebook en début de saison. Cet R3 justement que vous espérez retrouver, quel avis tu as dessus? Parce qu'au final, on sait qu'avec la Nouvelle-Aquitaine, le format des championnats a changé. Avant, c'était promotion d'honneur, promotion de ligue. Là, c'est de la R3. Finalement, il y a plus que 4 divisions. Puis il y a l'apport aussi des équipes de Dordogne, de Gironde. Quel regard tu as dessus sur cette division?
Un mauvais regard, parce que on est descendu. Mais sincèrement, on est descendu pour des raisons. Pour moi, on avait deux soucis lorsqu'on était. C'était pas nos adversaires, c'était nous déjà, parce que l'année de la descente, je le répète, on a connu des malheurs individuels très particuliers qui ont qui ont atteint le groupe, on va dire. Et ensuite, je l'ai aussi évoqué tout à l'heure, on manquait un petit peu de caractère. On avait une équipe joueuse. L'année de la descente, par exemple, c'est là-dessus que j'ai dit, il faut absolument qu'on bosse. L'année de la descente de PHAPL et l'année de la descente de la R3, il n'y a pas un adversaire qui, à la fin, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient plus forts que nous. C'est très dur comme sentiment, parce qu'on a l'impression qu'on est plus fort que les autres équipes, mais il nous manquait à chaque fois quelque chose, et notamment du caractère, de l'envie, un peu de réussite. Mais il n'y a pas une équipe où je me suis dit à la fin, bon, sincèrement, eux, il n'y avait rien à faire. Donc, il nous manquait forcément quelque chose. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de le travailler de diverses façons, en allant chercher des garçons avec aussi un peu du tempérament, et aussi en mettant le projet dans le club. Mais après, peu importe, Dordogne, Gironde, on a joué un petit peu partout. Je préfère aller en Gironde et en Charente-Maritime, c'est à cause de la route. La Dordogne, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas de quatre voies pour y aller. Mais c'est tout. Voilà.
Voilà. C'est peut-être un bien aussi, Michael, peut-être d'avoir descendu pour mieux rebondir.
Je pense aussi. Enfin, en tout cas, oui. Aujourd'hui, on peut dire ça.
Oui, parce qu'on avec
quand on est, quand on est descendu. Voilà, quand on est descendu, ça a été très compliqué. Hein. Alors moi, déjà le premier, hein, je l'ai très très mal vécu. Hein. Et les joueurs, je le sais aussi. Donc aujourd'hui, on a prouvé qu'on avait du caractère. Enfin, on est en train. C'est pas fini, on est en train de prouver qu'on a du caractère et finalement ça nous a peut-être fait du bien. Et oui, voilà.
Oui, puis il y a une solidarité.
J'aimerais rester quand même. Hein.
J'ai ressenti qu'il y avait une solidarité entre les joueurs, même à la mi-temps. Voilà, ça se congratule, il n'y a pas de mots déplacés. Ça sent la joie de vivre là.
Bon, quand on gagne, ça serait dur de.
Oh non, mais.
Il y a toujours des petits. Il y a eu un léger souci sur ce match-là, mais c'est logique. Heureusement qu'il y a des soucis, parce que s'il n'y en avait pas, on s'embêterait. Et puis, quand il y a des soucis, ça nous permet de régler des choses. Donc, non, il faut qu'il y en ait des soucis. Mais par contre, j'ai un groupe intelligent. Voilà. Moi, je parle beaucoup avec les autres éducateurs. Beaucoup se plaignent du sérieux de leurs joueurs, du respect de leurs joueurs. Moi, j'ai pas un souci avec mes joueurs. Et c'est des mecs adorables, des bosseurs qui sont respectueux et ils méritaient pas de descendre. Donc ça m'a fait mal aussi.
Qu'est-ce que l'entraîneur dit quand on va prendre le match de Confolens où au bout de 20 minutes vous êtes mené 2-0 et à la mi-temps vous étiez à combien?
Alors à la mi-temps c'est très particulier parce qu'on est mené 2-0 et à la mi-temps on revient à 2-1 et c'est la première fois depuis que j'entraîne.
Qu'est-ce qu'il dit
à la mi-temps? Et alors c'est la première fois depuis que j'entraîne que je suis mené 2-1 et que j'ai le sentiment qu'on va gagner en fait.
Ah bon.
On est mené 2-0 mais la réaction des joueurs a été très positive. On a enchaîné pas mal d'occasions qui doivent aller au fond sans un dos ou un bel arrêt du gardien. Et à la mi-temps, c'est ce que je leur dis. Je leur ai dit, les mecs, vous maintenez ce niveau-là, cette envie-là, vous aurez les 3 points à la fin. J'avais aucune inquiétude. Aucune inquiétude, je vais pas exagérer. Mais j'étais serein sur ce match-là. Complètement. Voilà. C'est plus quand on mène. D'ailleurs, on l'a prouvé à plusieurs reprises. Moutier, par exemple, où à un moment donné, on mène 3-0 et on se fait reprendre 3-2. Brie, où on gagne 4-1, on se fait reprendre 4-2. Puis, ils sont à deux doigts de mettre le 4-3 avant que nous, on enchaîne derrière. Quand on mène, on se relâche. Mais là, sur ce match-là, sincèrement, j'étais pas inquiet. Et d'ailleurs, c'est la seule fois où on a été mené au score. C'est le seul match où on a été mené au score. Et la réaction a été bonne et à la mi-temps, je suis très confiant, bizarrement.
Bon, moi, j'aimerais parler d'un gros truc, entre guillemets. C'est peut-être quelque chose qui demande beaucoup d'explications parce que finalement, je pense qu'en première division, peu de clubs font ce que vous faites. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, d'une part, parce que forcément, je suis très attaché au stade. Et puis, jouant sur Football Manager, on a à disposition pas mal de statistiques aussi, donc c'est assez intéressant. Alors du coup, c'est les statistiques. Déjà, grosso modo, Mika, explique-nous un peu le travail que vous avez mis en place du côté de Saint-Alex par rapport à ce domaine.
Alors, faut aller à l'origine en fait de l'idée. C'est-à-dire quand j'ai récupéré les seniors, j'ai eu des années très compliquées puisqu'on n'arrivait pas à faire venir des joueurs. C'est-à-dire que quand on veut améliorer l'équipe, forcément, on va chercher des joueurs qui ont des qualités et forcément, ces joueurs-là sont sollicités par d'autres clubs. Alors, on a eu des bonnes surprises, hein, des joueurs qui sont venus, voilà, dont Cédric, dont, voilà, il y a pas de souci. Mais de manière générale, ça a été très compliqué parce que on n'a pas les moyens financiers, notamment des autres d'autres clubs. Donc c'était, je le vivais mal de rencontrer des joueurs qui m'expliquaient que c'était quasiment fait et puis qui me rappelaient trois jours après en m'expliquant, ah ben on m'a proposé tant là-bas, donc je suis désolé. Donc au début c'est vrai que ça a été assez compliqué parce que on n'arrive pas à se renforcer du coup. Et puis surtout c'est que les nôtres ils sont sollicités, donc il faut aussi tout faire pour ne pas les perdre. Donc j'ai eu une période où je me suis dit putain mais comment on va faire en fait, et ensuite on va dire qu'il y a eu un alignement des planètes. J'ai eu la chance de faire venir un de mes cousins du coup qui s'appelle Johan Levrard, qui a rejoint l'équipe dirigeante avec David Fougier. Et quand ça faisait plusieurs fois que j'essayais de le faire venir, et cette fois il m'a dit c'est bon j'arrive, mais j'aimerais, si c'est possible, si ça t'intéresse, mettre la vidéo en place. Alors je dis alors là mon gars, on va la mettre, t'inquiète pas, mais par contre on va pas faire que ça. Et on a mis en place ce système de vidéo et de stats, tout simplement pour renverser un petit peu la vapeur à la base et faire en sorte que les joueurs s'intéressent au football et s'assurer que quand on fait venir un garçon, il s'intéresse au football. Et ça a plus ou moins marché, puisque depuis qu'on a mis ça en place, on arrive à faire venir des joueurs. Encore cette année, les joueurs qui ont renforcé l'équipe première arrivent tous quasiment de niveau au-dessus. Tu parlais tout à l'heure de Melvin qui faisait partie du groupe N3 de Cognac.
Oui.
On fait pas venir des joueurs sans qu'il y ait un projet quand même derrière. Et donc ça nous a aidés. Et aujourd'hui, j'ai déjà des contacts pour l'année prochaine de joueurs qui veulent nous rejoindre. Donc c'est super. L'objectif a été atteint. Maintenant, comment ça fonctionne? Ça prend énormément de temps, on va dire. Pour expliquer très rapidement le fonctionnement, parce que sinon on pourrait y passer des heures, mais pour
je vais zoomer sur certains aspects qui m'intéressent et dont on
parle tout à l'heure. Pour expliquer un petit peu le fonctionnement, nous, nos matchs à domicile sont filmés. Alors, on essaye d'en faire à l'extérieur quand les conditions le permettent, c'est-à-dire la hauteur de tribune, etc. Mais bon, cette année, on a filmé qu'à domicile, donc on a filmé 6 matchs. Donc, c'est filmé par donc mon dirigeant qui est Johan. À la fin du match, en principe, il vient discuter avec moi pour essayer de me calmer, parce que même quand je gagne, je suis toujours en colère, c'est comme ça. Et une fois qu'il a réussi à me calmer, il rentre chez lui, et tant que les joueurs sont au club house en train de boire un verre, lui, il est déjà en train de faire le résumé des buts. Bon, mais ça, c'est rien. Dès le lendemain, il travaille sur un logiciel. Donc là, ça fait 3 ans qu'on essaye d'améliorer les choses. On a commencé il y a 3 ans et quand je vois ce qu'on faisait il y a 3 ans, on était super contents. Et quand je vois ce qu'on fait aujourd'hui, je me dis qu'on a vraiment bien bossé. Donc on a un logiciel, je vais pas rentrer dans tous les détails, qu'il a couplé avec un tableur Excel, enfin bon, peu importe. Et aujourd'hui, il fait un énorme travail très laborieux de prise de données. Donc on sait tout un tas de choses sur les joueurs. Une fois que ça c'est fait, alors je l'explique en 20 secondes, hein, mais je sais que par match il passe entre 5 et 6 heures minimum.
Combien de fois d'ailleurs Johan voit le match quand il compile justement toutes ses stats?
Alors au début, comme j'avais des joueurs très chiants, et ils se reconnaîtront, il y en a qui revisionnaient le match derrière et qui se disaient non mais attends Johan, tu m'as compté 27 ballons touchés alors que moi j'en ai compté 28. Bon. Donc comme j'ai mon dirigeant, c'est quelqu'un de très méticuleux, mais il regardait le match plusieurs fois pour être sûr. Donc ça, on a dit stop, on arrête, hein, on n'est pas un ballon près, c'est pas un souci. Donc maintenant, il le regarde en une seule fois, mais par contre, l'action s'arrête toutes les 5 secondes, on va dire. Donc c'est très très long, et je sais qu'on en avait déjà parlé, il met entre 5 et 6 heures à peu près pour récupérer l'ensemble des données que moi je lui demande. Une fois que ça c'est fait, c'est transmis sur un tableur. Ensuite, on fait des mises en page. On envoie aux joueurs de manière individuelle leurs statistiques, les statistiques globales du match. On est aujourd'hui capable de calculer le pourcentage de possession, par exemple, et ça, il y a des choses intéressantes, ne serait-ce que par rapport à ça, et à en tirer en tout cas. Enfin bon, on est capable de sortir tout un tas de choses. Les joueurs reçoivent leurs stats, et ensuite, à côté de ça, parce qu'on est loin d'avoir terminé, moi ce qui m'intéresse le plus c'est l'analyse vidéo. Et donc on a un projet de jeu offensif, défensif, et on séquence des passages du match et que derrière on vient représenter aux joueurs lorsqu'on joue notamment à domicile, c'est plus facile, où on les convoque une heure avant et on leur montre par les images ce qui marche quand on le fait et ce qui ne marche pas quand on ne le fait pas.
Oui, donc finalement d'arriver à vous faire des petites séances, des petites séances vidéo.
Exactement. Alors j'aimerais en faire beaucoup plus, mais sincèrement, ça prend un temps. Enfin, nous on travaille à côté, c'est pas notre métier. Et donc on a chacun un boulot à côté, donc ça nous prend énormément de temps.
J'allais dire, moi c'est un travail à temps plein.
Là, ouais. Alors moi j'avais à peu près calculé juste pour rigoler une fois. À nous deux, je pense qu'on est par match analysé, on est entre 20, 25 voire 30 heures de travail.
Ah, quand même.
Où il y a la prise de notes, il y a la restitution. Ensuite, on revient vers les joueurs de temps en temps pour faire des restitutions individuelles, parce que lire des stats, comme je leur explique, lire des stats, ça sert strictement à rien. Je donne toujours un exemple qui est flagrant. Aujourd'hui, un défenseur central qui fait 100% de passes réussies, moi, j'aimerais savoir où il fait ses passes. Est-ce qu'il est capable de casser les lignes? Est-ce que c'est que du jeu vers l'arrière, vers son gardien, les latéraux? Donc, il y a une analyse complète qui est faite individuellement. Et derrière, rien ne vaut les stats sans la vidéo. Voilà. C'est alors qu'aujourd'hui, si on me disait, écoute, faut que tu choisisses, c'est soit tu continues les stats, soit c'est la vidéo, ça serait la vidéo. Parce que, voilà, c'est super important. Ils ont un visuel, ils le voient. On fait des arrêts sur image, on a des animations, etc. Et c'est parlant au niveau des joueurs. Donc, le côté stats, il a été fait vraiment pour nous, pour analyser, pour savoir si on se trompe pas sur des joueurs, si on se trompe pas dans notre façon de jouer. Mais surtout, ça a été fait, faut pas se le cacher, pour intéresser les joueurs à ce qu'ils font.
Parce que ça part de là. Ce qui est intéressant, alors, t'as évoqué beaucoup de choses, je vais revenir sur trois choses principales. La première, donc, il y a des statistiques globales sur l'équipe, donc, en plus, c'est vachement bien fait, hein, c'est découpé première mi-temps, deuxième mi-temps et le match, donc, sur les tirs non cadrés, le nombre de passes, la possession de balles, bref, des choses assez classiques quand on regarde le foot à la télé. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, et j'imagine que c'est là que les joueurs sont bien plus intéressés, c'est que, au final, les joueurs ont une fiche à eux et ça c'est hyper intéressant. Alors du coup c'est découpé en deux zones. Donc quand le joueur a le ballon, quand le joueur défend, et puis après il y a les pourcentages globaux. J'imagine que c'est le pourcentage de tête de passe, de tir cadré.
Il y a plein de choses en fait. Il y a le document que t'es en train de parler en fait, c'est en effet il y a j'ai le ballon et j'ai pas le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Combien j'ai réussi de passe? Combien j'en ai raté? Moi il y a des choses aussi qui sont importantes. C'est ils ont leur pourcentage de duels gagnés, les pourcentages offensifs, défensifs et aériens. On fait le pourcentage global et on regarde s'ils ont pris le dessus sur leur adversaire direct ou pas. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite ils ont une autre fiche individualisée en plus, où là par contre ils savent exactement où ils ont récupéré les ballons.
Ah oui, où ils les ont perdus. C'est individuel du coup, la cartographie des récupérations ballons.
Après ouais.
Ah c'est génial ça.
Ils savent alors où ils ont récupéré, où ils les ont perdus, où ils ont gagné leur duel, où ils les ont perdus. Alors sur les récupérations de ballons, on est capable de le faire soit individuellement, soit collectivement. Alors collectivement, ça nous sert à voir à peu près où était notre bloc. Est-ce qu'on a descendu? Est-ce qu'on a par rapport à la première mi-temps? Enfin voilà, il y a tout un tas de choses derrière qu'on analyse. Et ensuite, ils ont individuellement où ils ont fait leur passe, où ils les ont ratés, dans quelle direction elles ont été données. Et du coup, ça nous donne un ordre d'idée de où ils ont touché le ballon. Est-ce qu'ils ont été à l'endroit où je leur ai demandé. Les attaquants ont également l'endroit où ils tirent. Là, ils vont avoir... alors, on attendait d'avoir plusieurs matchs, évidemment, pour leur donner, mais je pense qu'à l'intersaison, tous les joueurs offensifs auront le récapitulatif de toutes les frappes qu'ils ont fait depuis des matchs filmés, bien sûr. Mais toutes les frappes, d'où ils ont tiré, à quel endroit ça a été dans le but, et savoir, voilà, dans quelle zone ils sont le plus efficaces ou pas. Donc c'est pour celui qui s'intéresse, en fait c'est hyper complet. Bon, faut s'y intéresser, mais sincèrement ouais, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de chance, voilà, d'avoir ça.
Ouais, non, voilà. Moi je suis pas genre de foot, mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Et puis et puis pour compléter deux petites dernières choses de mon côté par rapport à ça, la direction où vont les passes, ça amène forcément à voir un peu quels sont les circuits préférentiels de passe, hein, c'est des termes dans le football qu'on emploie. C'est un peu voir un peu les liaisons un peu entre les différents joueurs. Et puis on parle toujours de jeux qui penchent à gauche, à droite. Ça vous permet aussi de voir un peu de quel côté vous attaquez le plus.
Je me souviens de l'année dernière quand on a, alors c'était le match à Charente-Limousine l'année dernière où j'avais eu cette sensation qu'on était passé que le couloir gauche. Mmh. Ça avait été confirmé par les stats, puisque je te dis, voilà, on a un visuel individuel, mais après on peut juste calquer tous les joueurs et finalement on a le visuel collectif. Et en effet, les stats avaient confirmé ma sensation qu'on était passé qu'à gauche. Et du coup, dans l'analyse vidéo, on avait essayé de chercher pourquoi on était passé à gauche. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de solution? Est-ce que c'est parce que mon latéral droit ne donnait pas de solution? Est-ce que c'est parce que mes centraux ne levaient pas la tête et renversaient pas? Et donc, on en avait tiré des séquences où on leur expliquait, regardez, pourquoi on va pas de l'autre côté à ce moment-là? Donc voilà, c'est pour ça que je répète, les stats sans la vidéo, elles valent rien, en fait.
Oui, tout à fait.
Vous êtes la seule équipe en division 1 qui a ces moyens.
Alors c'est moyen humain, on va être clair, parce que
vidéos et tout, je pense pas qu'il y ait pas d'autres équipes que vous qui faisaient de la vidéo.
Alors j'essaye. En fait, c'est quand on a mis ça en place, on s'est renseigné.
Personnalisé.
Voilà. Mais quand on a mis ça en place, j'avais contacté des, puisqu'aujourd'hui il y a des logiciels qui existent. On envoie la vidéo, on a juste à filmer, on envoie, etc. Bon, c'était des budgets de 5 000 € à l'année. Je me vois pas taper. Ouais. À la porte de mon président. Bon, déjà, j'espère que je vais avoir des nouveaux ballons à Noël. Le message est passé. Mais je me voyais pas demander 5 000 € pour faire de l'analyse vidéo. Donc, les moyens, ils sont humains. C'est-à-dire que nous, on y passe énormément de temps. C'est des choses qu'on s'est achetées nous à titre personnel et on y passe énormément de temps. Et non, je ne pense pas qu'il y ait d'autres clubs en Charente. Alors peut-être la CFC, j'en sais rien. Qui aujourd'hui, je sais, commence à développer la vidéo, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont en capacité de faire ça. Et qu'ils le font, en tout cas. Donc,
même en R1.
Ah non, mais c'est une certitude. Mais après, voilà, je connais pas tous les clubs, mais je sais qu'à Cognac, pour avoir des retours, ils l'ont pas. Je sais que, voilà. Donc, Mais on voulait vraiment se différencier des autres clubs. Et je le répète, l'idée était d'attirer des joueurs pour parler de foot et faire que du foot chinois. Voilà.
Donc je comprends pour quelles raisons vous êtes dominateur dans tous les domaines, dans tous les compartiments.
Vous écoutez Attitude 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi sur www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Mickaël Ruiz.
D'ailleurs, par rapport pour conclure vraiment sur les stats, moi je trouve ça hyper intéressant. Sais que Mickaël est autant passionné que moi, voire plus même. On pourra en discuter pendant 3 heures, mais malheureusement l'émission sera finie avant. Est-ce que par exemple, quand tu croises les autres coachs de D1 les week-ends, est-ce que justement eux te parlent justement un peu de ces vidéos, de ces stats est-ce que ça fait un peu des émules est-ce que tu trouves des gens sensibles à tout ça?
Ouais, alors oui. Quand on a commencé il y a 2 ans, on a gardé ça pour nous en fait. Et parce que je voulais pas que, notamment via la page Facebook, je voulais pas qu'on se dise, ah, regardez, regardez comment ils bossent, ils font les beaux, etc. C'était vraiment pas du tout l'idée. Mais en fait, cette année, quand on a mis ça sur la page Facebook, je me suis dit, en fait, parce qu'à la base, je ne voulais pas, mais je me suis dit, mais attends, on a un super outil fait pour attirer des joueurs qui aiment le foot, et en fait, personne ne le sait. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à le mettre sur la page Facebook cet été. Et du coup, on a déjà des retours. Ouais. Alors, je sais qu'on a des personnes au club qui ont été contactées, notre responsable d'école de foot, etc. On a dit, oh, putain, mais vous faites comment, etc. C'est bien. Et je sais que j'en discute avec aussi des coachs, alors notamment le coach de Confolland en avait parlé, enfin, il y a d'autres coachs. Où, voilà, on essaye de s'aider, de savoir comment tout le monde bosse, et parce que voilà, celui qui est intéressé, il a juste à m'appeler et je lui explique.
Avec l'émission d'aujourd'hui, Mickaël, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront intéressés.
Ouais. Bon, par contre, faut qu'ils aient du temps. Hein.
Même le district pourrait potentiellement être intéressé à peut-être faire des formations, ou en tout cas au moins à faire une sorte de petite convention. Sur un peu la, même si bon forcément le district on va pas forcément demander à un club de D5 ou à un club de D4 de filmer tous ces matchs et de faire des retours vidéo en tout cas ne serait-ce même que pour avoir un petit contact j'imagine que ça pourrait intéresser beaucoup de coachs en Charente et puis même le district.
Tout à l'heure je parlais de toutes les plateformes qui proposaient. Moi quand on a commencé il y en avait peu, donc les prix étaient mirobolants. Là aujourd'hui il suffit d'ouvrir, alors comme nous on clique beaucoup sur internet sur ce genre de choses et évidemment il y a des pubs qui nous arrivent logiquement, on va dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes se multiplient. Donc, les prix sont certainement en train de descendre. Moi, je le répète, que c'est que du manuel hein, de notre côté. Mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, un club qui veut progresser, il ne le fera pas sans la vidéo. C'est une certitude.
Tout à fait. Voilà. Et puis même maintenant, il y a des moyens. Alors, tu vas me rappeler le nom du site qui permet de capter 15 secondes après le but et finalement de capter les temps forts.
Ah ouais, mais ça, maintenant, ouais, Ouais. C'est rematch, mais ça m'intéresse pas, ça.
Ouais, voilà. Après, pour les clubs qui ont juste des smartphones, on peut même filmer certains buts et puis.
Oui, mais voilà. Mais là, c'est plus pour montrer les buts, etc. Oui, oui. Nous, on le fait parce que sur notre page Facebook, on le fait sur les matchs qui sont filmés parce que on a les vidéos, donc autant qu'on les fasse voir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Je m'en fous, hein, ça. C'est vraiment l'analyse qu'on apporte à notre projet de jeu derrière. Donc et les rematchs, là, par exemple, l'application rematch, ça revient 15 secondes en arrière et c'est tout. Oui, donc oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir le match, et de l'analyser complètement.
L'objectif pour les prochaines années, c'est vous visez quoi comme niveau?
Je sais pas en fait. Je veux remonter en R3. Tout le monde veut remonter en R3. Le club veut remonter en R3. Ça c'est une certitude. Après, oui. Si aujourd'hui je devais, j'en sais rien parce qu'en fait j'ai pendant longtemps. Ça fait 8 ans que je suis maintenant en senior, je vois comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on a beau mettre des projets sur 3-4 ans, il se passe toujours quelque chose qui va nous faire dévier de ce projet-là. Alors bon, il y a eu le virus, il y a une année où j'avais perdu tous mes meilleurs joueurs parce que d'un coup, ils sont en train d'exploser et que tout le monde les appelle et que ça avait été compliqué. Mmh. Mais là aujourd'hui, voilà, si on me demande où je veux emmener cette équipe, c'est en R2. Je veux au moins qu'on aille en R2. Mmh. Parce qu'on met les moyens humains, on va dire. Voilà. Mmh. On travaille beaucoup. Hein. Je le répète et je leur fais un coucou, que ce soit David et Yo, mes deux compères. Si on devait aujourd'hui avoir un récapitulatif du nombre de messages qu'on peut s'envoyer dans une journée ou le nombre d'appels qu'on se passe, donc on travaille énormément. Et parce qu'on aime ça, hein, attention. Hein. Mais du coup, c'est si on veut avoir le résultat de notre investissement, il faut qu'on vise la R2. Voilà, c'est une certitude. Maintenant, dans combien de temps, j'en sais rien. Et voilà, il y a des étapes à passer. J'entendais d'autres coachs sur les émissions précédentes qui expliquaient que c'est compliqué de monter. Oui, c'est compliqué de monter. Entre les blessures, les cils, la qualité de l'adversaire, on n'en sait strictement rien.
J'aurais une dernière question à te poser, Mickaël. Alors, t'es pas obligé d'y répondre parce que voilà. Est-ce que il y a des clubs qui se sont intéressés à tes services?
C'est une bonne question.
Oui, mais bon, voilà, c'est pas pour l'instant.
Non, on va pas citer de clubs, mais est-ce que voilà, ma question est comme j'entends dans tes phrases que c'est la R2, je me posais la question, est-ce que tu as été sollicité, si tu veux, pour entraîner une telle équipe, même du niveau supérieur?
Oui, bien sûr. Mais après, voilà, il y a des clubs qui sont toujours à la recherche d'éducateurs. Enfin, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de remettre déjà cet intérêt où le club doit être. Après, on verra le reste. Voilà. Mais de toute façon,
je vais te couper, Mickaël. Après, je vais te laisser. C'est une question qui va avec. Hein, c'est un complément de question. Vu les moyens que vous avez aujourd'hui. C'est sûr que je pense qu'il y a des clubs de R1 qui seraient certainement intéressés.
Voilà. Non, mais
le problème c'est qu'en Charente il y a qu'une seule équipe en R1 donc. Et c'est une équipe réserve.
C'est une équipe réserve. Mais voilà, au-delà de ça, voilà. Moi, enfin, quand j'ai commencé à faire ça, j'avoue que ce qui m'était passé par la tête, c'était de souffler aussi un petit peu, parce que ça me prend, beaucoup de temps.
Ça doit te
pomper
beaucoup d'énergie.
Et puis au-delà de ça, là, je sais que les joueurs vont rigoler, mais on n'est plus que coach aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est-à-dire que on est assistante sociale, on leur prend le rendez-vous chez le médecin, et moi, j'accorde beaucoup d'importance au relationnel que j'ai avec mes joueurs. Et du coup, ça me prend un temps, mais incroyable. Et ils s'en doutent pas, parce qu'ils viennent vers nous individuellement, mais ils se doutent pas que les 14 sont pareils. Et aujourd'hui, je m'étais dit, au bout d'un moment, j'ai besoin de souffler, et j'aurais aimé. Continuer à apprendre parce que finalement j'ai pris les seniors et puis je me suis débrouillé par moi-même. J'aurais aimé prendre du recul, voir comment un autre coach travaille, me mettre à son service et continuer à apprendre. Sinon, aujourd'hui, pour l'instant, je suis bien à Saint-Yrieix. Je suis proche de mes joueurs, ils le savent. Si je suis là aussi, c'est encore pour eux. Et donc, pour l'instant, je me vois pas ailleurs. On est bien et on est en train de d'essayer de faire quelque chose de bien. Donc, il faut qu'on continue.
Je vais poser une dernière question à Mika sur la CFC. Forcément, on a tous les deux ce dénominateur commun. On sait qu'on est tous les deux fans de ce club, de cette équipe de National 2. Est-ce que t'as pu les voir jouer déjà avec l'arrivée de David Diguel? J'imagine que t'es très occupé sur les terrains. Et puis, qu'est-ce que tu penses globalement un peu de la trajectoire du club qui finalement, un peu comme vous finalement, est descendu pour mieux remonter?
Alors non, j'ai pas été les voir parce que au bout d'un moment, ça va mal se passer chez moi. Non, mais si en plus je commence à m'éparpiller ailleurs, là, ça va être compliqué.
Eh oui, la famille, c'est important.
Non, mais c'est une certitude. Et
ta fille fait de la gym et a vraiment un très bon niveau aussi.
Oui, mais c'est pour ça, elle nous prend beaucoup de temps parce qu'elle a 13 ans, elle en fait entre 20 et 25 heures par semaine. Mon fils fait du basket, il a aussi un bon niveau. Non, mais si je commence à m'éparpiller le vendredi soir, ça va être compliqué. Donc, par contre, c'est vrai que j'aimerais aller les voir et ne serait-ce que pour moi en fait, pas forcément histoire de dire je vais voir la CFC, mais c'est toujours super intéressant d'aller voir des équipes, comment elles jouent, comment on les analyse, pour essayer de retranscrire comme on peut nous à notre niveau amateur. Donc non, je n'ai pas été les voir. Par contre, oui, je les suis évidemment de très près et je suis content parce que le club a eu des petits soucis pendant un petit moment. Je reste persuadé que j'avais eu contact dès son arrivée avec Hervé Louba. J'avais eu un contact avec lui et en sortant, j'avais dit c'est bon, ils sont sur la bonne voie. C'était vraiment quelqu'un de super. Je me suis pas trompé puisqu'il les a remis au bon endroit. Et là, ça a l'air d'être pareil. Je suis leur petite vidéo sur YouTube et je trouve que le club est dans le bon sens et ça me fait plaisir. Ouais, c'est clair.
Voilà, Mickaël, on arrive au terme de notre émission. Avant de conclure, je voudrais te remercier, Mickaël, ainsi que Christian, sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, merci pour ta disponibilité et merci pour avoir nous accorder du temps, même si on sait qu'on voit mieux aujourd'hui à quel point tu as un emploi du temps bien chargé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mickaël?
Que ça continue. Voilà. Non, que ça continue. Voilà. Que la saison aille au bout. Et que qu'elle se termine dans la position où on est, et de garder en fait cette c'est la seule chose que je veux. Moi, le jour où j'ai plus la boule au ventre et que j'ai plus cette passion, il faut que j'arrête. Et tant que je l'ai, c'est que c'est bon signe et ça me poussera à faire en sorte qu'on s'améliore nous dans notre gestion et que ça aidera aussi le club. Donc, il faut que ça continue. Voilà, je demande juste ça, moi.
Voilà, on a bien compris que t'es un homme de passion et t'as un côté pragmatique aussi. Donc, c'est un peu le yin et yang, c'est la balance pour aller vers des lendemains qui chantent. Voilà. Merci, Mickaël, d'avoir accepté notre émission.
Merci à vous.
Bonne continuation. À tout bientôt et on gardera un œil attentif sur ce que fait ton club.
OK. Merci beaucoup.
À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Bonne fête de fin d'année, Mika.
Merci.
Salut, Mika. Et puis, bon anniversaire un peu en retard.
Ouais. merci.